Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 10 juillet 2026 et nous vous souhaitons la bienvenue dans l'invité du 12-13. Merci David pour l'animation musicale de la matinée, parfaite comme toujours. David, on te retrouve juste après l'invité du 12-13 de Souvenir FM, l'émission qui va à la rencontre des acteurs du territoire et qui donne la parole à ceux qui l'animent et qui le font vivre. Et aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir une famille de sauveteurs en mer qui ont délaissé quelques minutes la chaleur des plages pour venir nous parler de sauvetage côtier. Je souhaite la bienvenue à Marina Daudignon et à ses deux enfants, Élise et Nicolas. Bonjour à tous les trois. Pardon, j'allume les micros. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors nous allons parler évidemment de ce que vous faites sur les plages. Nous allons parler de l'océan, du sauvetage côtier sportif aussi en plein essor. Nous allons profiter de votre présence pour rappeler aussi à nos auditeurs les bonnes attitudes à avoir sur la plage et dans l'eau, hein. Mais avant cela, nous quittons deux petites minutes pour le flash info national et international sur Souvenir FM. À tout de suite.
Souvenir FM.
Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM.
Et l'étape du jour du Tour de France qui partira bien d'Ajetmo et pas d'Agemo, mais ça c'est pour la prononciation sud-ouest. Alors démarrons, fini la rigolade, démarrons notre émission du jour avec le club de sauvetage côtier de Seignos aujourd'hui, où nous recevons Élise, Nicolas et Marina Daudignon, qui est Marina trésorière du club. Messieurs, dames, l'introduction de nos émissions est toujours marquée par la présentation des invités par eux-mêmes. Alors nous souhaitons que vous présentiez chacun d'entre vous à tour de rôle au micro vos trajectoires personnelles aux auditeurs avant de nous lancer évidemment dans les échanges sur votre club et ses activités. Alors Marina, la maman, racontez-nous un petit peu votre trajectoire personnelle, votre parcours de vie qui vous a amené à habiter ici aujourd'hui dans les Landes et à faire du sauvetage côtier et à l'inculquer à vos enfants.
Bonjour tout le monde. Donc je suis dans les Landes depuis que je suis toute petite, l'été. Donc j'ai fait du sauvetage côtier. J'ai surveillé les plages étant jeune pour gagner un peu de sous quand j'étais étudiante. Et je suis restée dedans. Voilà, donc ça fait 30 ans que je baigne dans le sauvetage côtier. Et mes enfants, étant petits, ont voulu essayer et puis ils sont restés dedans.
Voilà. Et alors Élise, la grande sœur de Nicolas, qui sont les deux, vous êtes jeunes, mais vous êtes grands et solides, vous êtes des sportifs aguerris maintenant. Racontez-nous Élise, comment vous êtes plongée dans le sauvetage en faisant comme maman, c'est ça?
C'est un peu ça. On a commencé quand on était très jeune. Oui. On peut commencer le sauvetage à partir de 6 ans l'été. On a commencé tout petit. Au début, c'était des jeux, donc super amusants. Et c'était surtout, ça nous apprenait à appréhender l'océan, ses dangers. Et ça permettait à nos parents d'être rassurés après quand on était tout seul ou même pas à l'océan. Ils savaient qu'on saurait se débrouiller quelles que soient les conditions. Et donc, étant donné que c'est un sport super ludique, où on s'ennuie jamais, toujours en relation avec la nature, on a continué en grandissant et donc en augmentant peu à peu la charge d'entraînement. Mmh. Et avec les années, il s'est trouvé qu'on était tous les deux, Nicolas et moi, plutôt doués dans le sport. Donc aujourd'hui, on est tous les deux sportifs de haut niveau avec un statut reconnu par le ministère des Sports. Et donc, on s'entraîne, parce qu'on a un bon groupe d'entraînement, on s'entraîne pas tout seul. Et donc on s'entraîne avec Seignos sauvetage côtier tous les jours, trois fois par jour, comme des sportifs de haut niveau, voilà.
Et donc l'été, il y a du temps entre guillemets quand même, mais pas évident quand on a 18 ans et qu'on fait des études à Tarbes, Nicolas, d'avoir ce statut. Comment ça se passe le statut de sportif de haut niveau à 18 ans pour allier les études et l'activité physique? Vous disiez hors antenne que c'était pas forcément en France hyper bien fichu, quoi, le fait de jongler entre les deux.
C'était pas forcément facile cette année. J'ai pu nager donc à la piscine de Tarbes, et quand je rentrais le week-end, j'arrivais à aller dans l'eau pour faire de la planche dans les vagues, mais tout en essayant de travailler pour les cours. Donc j'ai réussi à avoir mon année. Et on va voir comment ça se poursuit, mais oui, c'est pas facile.
Ouais, il y a tout le Vous avez du temps devant vous, Nicolas, à 18 ans. Je m'en fais pas trop pour vous. Alors là, on a un petit peu défriché, je dirais, la partie sauvetage côtier sportif. On y reviendra un petit peu plus en détail un peu plus loin dans l'émission. Et parlez-nous, Marina, en introduction du club de Seignos, qui a été créé donc en 2008 sur une vocation initiale de formation, de prévention et vraiment de sauvetage. Après, il a évolué. Racontez-nous un petit peu cette histoire du club.
Donc oui, créé en 2008 par un petit groupe de sauveteurs. Ce club avait vocation à faire un petit peu de sportif, mais ça n'a pas vraiment décollé. Il a été repris un petit peu plus tard par David Dubès, qui est l'ancien président, qui faisait essentiellement de la formation en secourisme auprès des surfeurs. Donc le club a été repris depuis le mois de septembre par un petit groupe de personnes qui connaissent le sauvetage depuis un petit moment. Et donc la vocation de cette nouvelle association, de ce nouvel élan dans l'association, c'était vraiment de développer la partie sportive, mais aussi la partie sécurité civile, puisque le club a la possibilité d'organiser des DPS.
Alors des dispositifs prévisionnels de secours.
Exactement.
C'est le moment d'en parler, oui, dites-nous.
Alors par exemple, le club a pris en charge la partie secours de la course qui a eu lieu à Seignos il y a quelques temps.
Oui, d'accord.
Le trail des mouettes.
Oui.
Voilà. On sera aussi en appui sur les fêtes de Tyros.
D'accord.
Voilà, on fait aussi les fêtes de Seignos.
Vous mettez en place, comme la sécurité civile par exemple, ou des dispositifs, donc ces fameux DPS, dispositifs prévisionnels de secours. Okay.
C'est ça. C'est pour venir en aide.
Un peu comme la Croix-Rouge. C'est exactement ça qu'on fait.
Donc une association, donc c'est un club de sport. Hein, du coup, on peut le dire comme ça, mais qui a une vocation forcément aussi d'intérêt général et associatif, parce que c'est du sauvetage côtier. Donc, vous avez tous au club, j'imagine, des diplômes ou des choses comme ça. Et d'ailleurs, le club fait aussi des formations, n'est-ce pas ?
Oui, c'est ça. On fait aussi.
Il propose des formations.
Oui, on propose des formations, tout ce qui est secourisme, donc PSE1, PSE2 pour travailler en plage. On fait aussi le BNSSA, Brevet National de Sauveteur Secouriste Aquatique. Ouais. On propose aussi aux entreprises du SST, Sauveteurs Secouristes du Travail.
Oui.
On fait aussi du PSC1 et des gestes qui sauvent pour les collégiens, les plus petits aussi. Et donc, c'est vraiment la vocation du club. On a une délégation d'agrément de sécurité civile via notre fédération, la Fédération française de sauvetage et de secourisme.
Oui.
Et ça nous permet d'avoir une approche globale dans le secours.
Et oui, voilà. Et vous faites, évidemment, vous ne faites pas que surveiller les plages et vous amuser, entre guillemets, à faire du sauvetage côtier sportif. Il y a toute une dimension formation. Je crois qu'il y a aussi des stages découvertes que vous faites. Alors, avis à tous les auditeurs qui seraient attirés de près ou de loin par ces disciplines et par le fait de participer activement à la vie côtière, quoi, à la vie des plages, surtout en été. Vous pouvez vous rendre évidemment sur le site de Seignos Sauvetage Côtier pour avoir toutes les informations liées notamment à ces DPS, si vous êtes par exemple une mairie ou un organisateur, et si vous êtes un particulier, à tout le catalogue de formations qui est proposé. Alors on a reçu il y a quelques semaines le SMGBL, donc le syndicat mixte des gestions de baignade landaise. Quels sont les rapports évolués entre la partie publique du SMGBL et les clubs plus privés comme le vôtre? Quels sont les ponts entre les deux?
Alors, quand on fait du sauvetage côtier, donc comme je l'ai dit, on est un bon groupe qui s'entraîne. On s'entraîne sur le côté sportif, mais dès qu'on a l'âge, c'est-à-dire vers 15-16 ans, on passe aussi tous nos diplômes de secourisme. Donc, comme l'a dit Marina, c'est PSE1, PSE2, BNSSA. Et avec ces trois diplômes en poche, on a la possibilité de se présenter au stage de sélection pour faire partie des nageurs sauveteurs sur les plages l'été. Mmh. Et ces stages de sélection sont organisés par le SMGBL.
D'accord.
Donc nous tous, dès qu'on a 18 ans, l'idée c'est qu'on surveille les plages l'été parce que c'est... on est formé pour ça, on est en forme sportivement et on a la connaissance nécessaire avec les diplômes qu'on a passés avec le club. Et c'est aussi un métier qui colle très bien avec nos entraînements bi ou tri quotidiens. Donc c'est un rythme, les deux vont très bien ensemble, ce métier avec ces entraînements-là. Et donc dès qu'on a 18 ans, on postule sur les plages. Donc, suivant les disponibilités qui s'ouvrent à Seignos, à Segor, au Cap-Breton, enfin sur toutes les
langues. Vous êtes mutés comme des professeurs. Hein.
Voilà,
je crois
ça.
Que Marina, vous êtes d'ailleurs, vous êtes professeur en plus d'être trésorière de l'association. Donc, oui, une fois que vous avez le diplôme, ça fonctionne comme ça. Quoi. Donc, le SMGBL organise les
sélections.
Les sélections que vous avez réussi à avoir, j'imagine, haut la main, Nicolas.
Oui, ça s'est bien passé.
Bon, sur la partie physique. Bon, et après, vous êtes dispatché sur les plages du littoral où vous faites une activité de secouriste donc l'été, rémunéré. Si des jeunes, d'ailleurs, pareil, qui nous écoutent, ont envie de faire, de faire un job d'été, etc., et qui sont sportifs, qui aiment la mer, etc., qu'ils n'hésitent pas à vous contacter.
Voilà, c'est ça.
Pour tout ça. Très bien. Vous parliez aussi, Marina, d'une forme de mutualisation des savoirs ou en tout cas une synergie entre les différentes associations. On a parlé du SMGBL, mais vous disiez que c'était important là, de redonner un souffle à votre association en septembre 2025 sur la partie sportive, mais aussi de profiter, je dirais, du terreau associatif local pour faire des mutualisations d'actions, n'est-ce pas ?
Oui, c'est ça. En fait, dans les statuts de l'association, on a vraiment pour vocation d'ancrer notre association au point de vue local et d'avoir un réel intérêt public. Donc, bien sûr, on développe la partie sportive puisqu'on a quand même équipe de haut niveau inscrit chez nous. Donc, comme Élise l'a expliqué tout à l'heure, ça demande quand même beaucoup de rigueur et beaucoup de temps d'entraînement. Et donc, pour ce qui est du comité directeur, on a participé au budget participatif de la ville de Seignos. Donc, on a proposé un parcours de prévention autour de l'océan et de l'environnement qui lui est proche. Donc, on a remporté. Donc, on remercie la ville de Seignos d'avoir mis en place ce genre de dispositif. Et notre volonté autour de ce parcours est vraiment d'allier tous les acteurs du territoire qui font de la prévention, que ce soit au niveau de l'environnement, donc par exemple pour la forêt avec le DLCI, avec l'océan pour le SMGBL, ou encore l'ONF pour la protection des dunes. Donc maintenant que le budget a été remporté, on va donc se tourner vers ces acteurs pour pouvoir leur proposer une visibilité sur notre parcours, qui sera ouvert donc aux enfants à partir de 8 ans accompagnés, aux adolescents et même aux plus grands.
Donc le fait d'avoir remporté ce budget participatif de la ville va vous permettre aussi de rentrer dans une nouvelle dynamique, dans une autre dimension. C'est-à-dire que vous avez une enveloppe dont vous pouvez vous servir pour faire tout un tas d'actions. On y reviendra après la première pause que nous allons faire. C'est déjà l'heure de nous quitter quelques instants en musique. On se retrouve juste après pour continuer à parler du sauvetage côtier. À tout de suite.
Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine, Souvenir FM invite un acteur de votre actualité
dans le
12-13.
Et nous voilà de retour pour la deuxième partie de l'invité du 12-13 avec le club de Seignos Sauvetage Côtier en compagnie de Marina Dodignon, la trésorière de l'association, et de ses deux enfants, Élise, 21 ans, et Nicolas, 18 ans, qui sont MNS, mais aussi... et surtout, sauveteurs côtiers de haut niveau. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez chacun le statut de sportif de haut niveau. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette discipline qui a le vent en poupe en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire, les principes, la compétition, et le rythme effréné aussi, Élise, n'est-ce pas ?
Oui, c'est ça. Bah, alors, le sauvetage sportif, c'est un sport qui a été inventé et importé d'Australie. Donc, il a été inventé en Australie il y a 120 ans à peu près. pour challenger les différents sauveteurs, parce qu'à l'époque, il surveillait déjà les plages là-bas en Australie. Donc, il a été ramené en France il y a une trentaine d'années. Et donc, il y a une trentaine d'années, les premiers clubs français ont commencé à apparaître. Donc, cette discipline, elle est répartie en deux grandes catégories. Il y a des épreuves en piscine qu'on fait plutôt l'hiver quand il fait froid et qu'on ne peut pas trop aller à l'océan.
Moins fun.
Et voilà, c'est ça. Nous, on préfère clairement la partie côtier ici, dans les Landes, parce qu'on a des vagues, on a l'océan et tout ça. Et la partie donc à l'océan, voilà, qu'on pratique plutôt l'été, quand l'eau est bonne, qu'il y a des vagues, c'est très sympa. Donc à chaque fois, ces épreuves-là, c'est des bouées qui sont disposées dans l'eau et il faut faire le tour le plus rapidement des bouées. On part à chaque fois à environ 16 ou 18 personnes sur une ligne de départ et à chaque fois, voilà, les premiers passent au tour suivant, etc., jusqu'à arriver à la finale.
Donc c'est des épreuves chronométrées. Le principe, c'est quand même d'aller vite.
Alors, il n'y a pas de chronomètre parce que les conditions changent tout le temps.
Ah oui, c'est comme les triathlons.
Voilà, c'est arrivé, ça. Oui, c'est premier arrivé, il a gagné.
Okay.
Voilà, et alors, la plupart des gens confondent le sauvetage sportif et le sauvetage professionnel. Donc, les sauveteurs qu'on voit surveiller les plages l'été, qui sont sur leur mirador et qui assurent la surveillance des plages.
Donc ça, c'est le sauvetage professionnel.
Voilà.
Donc, c'est les maîtres nageurs sauveteurs.
Les maîtres nageurs sauveteurs, ou les nageurs sauveteurs plutôt. Pour être maître nageur sauveteur, c'est un diplôme supplémentaire. Que la plupart d'entre nous n'avons pas. Voilà. Donc ça, c'est nageur sauveteur. Et nous, on fait du sauvetage sportif. Donc c'est sportif. Voilà, c'est vraiment la course. Il y a des championnats d'Europe, du monde. On est potentiellement au JO en 2032 à Brisbane.
C'est Brisbane, c'est vrai que c'est en discussion.
Voilà,
hein,
c'est
18
ça.
Ans, peut-être.
Oui, ça serait l'objectif pour nous deux. Si
21,
jamais,
ça pourrait coller.
Bon. Si jamais ça y est.
Et donc, parlez-nous un petit peu, Nicolas. J'ai du mal, je suis désolé, j'ai du mal à le vouvoyer, Nicolas, à 18 ans. Je sais que c'est l'usage à la radio, mais bon, je vais continuer à essayer de batailler pour vous vouvoyer, Nicolas. En quoi ça consiste, les compétitions ?
Donc, les compétitions, ça peut être sur plusieurs jours, 2-3 jours. Donc, tout est sur la plage. On est sous une tente avec tout le club, avec toutes nos affaires et en gros... on va avoir le matin les qualifications et l'après-midi les finales, donc avec plusieurs épreuves, donc de la nage, de la course sur le sable, de la planche et du kayak aussi, et même une épreuve qui rassemble les quatre.
Alors rappelons que la planche, c'est pas la planche de surf, c'est une planche, alors vous l'avez peut-être vu si vous êtes sur les plages landaises notamment, c'est une planche où vous êtes à genoux, les deux genoux serrés, c'est ça sur le...
C'est ça, c'est les mêmes planches qu'ont les nageurs sauveteurs sur les plages, celles que vous voyez, les grosses planches jaunes à côté des miradors, mais profilées pour la course en carbone, donc beaucoup plus légères et plus rapides.
Qui vont plus vite.
C'est ça.
Et alors, quelle est votre spécialité ? En quoi vous êtes le meilleur ?
Moi, ma spécialité, c'est la planche, justement, et l'Ocean Man, donc les quatre disciplines d'affilée, donc la nage, la course, la planche.
Ouais, ça doit être fun, ça. Et alors, les championnats, il y a des championnats régionaux, des championnats de France, des championnats européens, etc. Vous avez fait championnat du monde, tout ça ?
C'est ça. Donc, chaque année, il y a les championnats de France, bien sûr, et tous les ans, ça alterne entre les championnats d'Europe et les championnats du monde. Donc avec Élise, on a pu participer déjà aux championnats d'Europe l'année dernière et aux championnats du monde en Australie en 2024. Donc ça a plutôt bien marché. Moi, j'étais en U19, donc en junior, j'ai réussi à finir vice-champion du monde de la planche.
Eh bien, félicitations.
Donc c'est là que j'ai un peu compris que la planche, c'était mon truc.
Et moi, j'étais dans l'équipe senior, c'était ma première année en senior, donc j'ai quand même fait deux belles quatrièmes places au niveau mondial. Donc c'est cool, et surtout en Australie, originaire de là-bas, c'est notre monde, clairement.
C'est les Australiens qui dominent la discipline. Quand,
c'est ça.
Comme
depuis des années.
Le rugby en Nouvelle-Zélande ou le cricket dans le Commonwealth, ce genre de choses.
Exactement.
Mais très bien, on arrive déjà à la deuxième pause, mais on va continuer à parler de toutes ces compétitions. On va aussi parler quand même dans la troisième partie, Marina, nous allons parler un petit peu des dangers de la mer et de comment les éviter, etc. On se retrouve dans une dizaine de minutes après un petit peu de musique et le flash info local de Jean-Philippe Dandurand.
Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM.
Et nous revoilà pour la troisième partie de l'invité du 12-13 en compagnie de Marina Dodignon et de ses deux enfants qui sont donc représentantes du club de Seignos Sauvetage Côtier. On parlait juste avant la dernière pause des compétitions auxquelles vous participiez en tant que sportifs de haut niveau. Il y en a 14 dans votre club. Ce qui en fait un contingent, j'imagine, quand même très important à l'échelle du pays. Mais vu que vous avez qu'un an d'existence, ce sera vos premiers championnats de France France officielle, là, c'est ça, en septembre.
C'est ça, du 2 au 6 septembre à Royan, ouais. On va pouvoir faire toute la compétition contre les autres clubs et pour avoir qui est vraiment le meilleur cette année.
Et en espérant que ce soit vous. Alors vous rappeliez les quatre disciplines, la planche, la course sur sable, le combiné de tout ça. Si évidemment des gens qui nous écoutent sont curieux et intéressés par cette discipline, alors qu'il y a 120 ans d'existence, Élise le rappelait, mais qui est quand même assez nouvelle dans nos contrées, n'hésitez pas à vous rapprocher du club de Marina. Alors après avoir parlé de la partie sportive, on va parler de la partie prévention. C'est évidemment l'autre casquette de votre association et de votre club. Parlons un petit peu des choses qui fâchent, malheureusement, puisque les chiffres sont pas très reluisants depuis quelques années. Il y a des noyades qui sont en hausse, des chiffres de noyades qui sont en hausse, notamment l'année dernière. Et même cette année, là, depuis le mois de mai, il y a beaucoup de noyades, notamment dans les Landes. Alors, la vigilance est de mise, évidemment, et je crois qu'il y a quelques gestes aussi à rappeler. Mais d'abord, comment on explique cette hausse récente du nombre de noyades sur nos côtes? Est-ce que c'est la fréquentation? Est-ce que c'est le fait que les gens font peut-être un petit peu moins attention ou...
C'est un grand mélange de tout ça. Le réchauffement climatique amène de plus en plus de monde, de plus en plus tôt sur les plages. Donc la fréquentation est en hausse, c'est indéniable. Mais en France, on a aussi des bassins qui sont vieillissants.
Oui, alors des bassins de piscine.
Des bassins de piscine. Et donc ce sont des structures qui ferment régulièrement. Ce sont des structures qui coûtent très cher aux collectivités. Donc les collectivités peinent à en ouvrir, l'entretien est compliqué. Donc pour les clubs de sport, c'est compliqué d'avoir des lignes d'eau.
Pour s'entraîner, pour apprendre à nager,
bien sûr. Exactement. Et en France, donc l'éducation nationale a intégré l'apprentissage de la natation dans les programmes, mais la disponibilité et le fait que les bassins ne soient pas proches des écoles compliquent énormément la tâche. Ce qui fait que les enfants ont parfois plus de temps de bus que de temps dans l'eau. Et donc on se retrouve avec des générations
qui nagent moins bien qu'avant.
Nagent moins bien.
Ça c'est un fait. Oui, donc c'est quand même effectivement dommage. Il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de chaleur, donc de plus en plus de fréquentation et des équipements qui font qu'on a un petit peu plus de mal à avoir des bons nageurs, quoi. Voilà. Très bien. Quels sont les gestes, je dirais? Pas d'urgence, mais les
bonnes attitudes à avoir.
Exactement, les bonnes. Merci, j'arrivais pas à trouver mon mot. Les bonnes attitudes à avoir quand on est baigneur, déjà pour pas se mettre en danger, et ensuite, si jamais on est confronté à une situation où il y a quelqu'un qui est en danger et qu'il y a personne de qualifié entre guillemets pour aller lui porter secours.
Mais en tant que nageur sauveteur sur les plages landaises, je dirais que la première attitude à avoir, c'est d'écouter les consignes des nageurs sauveteurs. Vraiment de lire tous les panneaux qu'il y a sur la plage.
À l'entrée, bien sûr.
On fait un maximum de prévention et ça sert à ça, d'écouter les consignes et de vraiment se baigner dans la zone de bain entre les drapeaux rouges et jaunes. Après, en dehors des horaires de surveillance, ça peut être compliqué. En effet, on est plus là.
Oui.
Donc là, il faut faire attention, se rappeler peut-être où était la zone de bain ou comment, qu'est-ce qu'on leur a dit dans la journée et d'éviter. Éviter les zones où il n'y a pas forcément de vagues, ça peut être les zones les plus dangereuses.
Oui, d'accord. C'est pas parce qu'il n'y a pas de vagues que c'est pas forcément dangereux. Alors, Élise va prendre le relais parce que ça ne se voit pas à la radio, mais on est en famille. Hein. Il y a Marina et donc ses deux enfants. Et il y a la grande sœur et le petit frère qui se chamaillent pour avoir la parole au micro. Donc, Nicolas a pris les devants. Mais Élise, tu peux... Allez, je tutoie parce que j'arrive pas à vous voyez. Élise, tu peux compléter. On t'écoute.
Ouais, c'est ça. Ben, en tant que nageur sauveteur, tous les deux, on passe la journée sur la plage à aller voir les gens, à leur expliquer, vous pouvez pas vous baigner ici, c'est dangereux. La seule chose, je dirais, à garder en tête quand on va à l'océan, aussi bon nageur qu'on soit, même si on nage moins de la minute aux 100 mètres, peu importe, il faut rester humble face à l'océan. Oui. Ça reste un élément naturel incontrôlable et imprévisible. Donc même nous, en tant que nageur sauveteur, on connaît nos limites. on va pas aller se mettre dans des énormes vagues. Il faut connaître ses limites, connaître ses capacités et pas aller se mettre en danger. Il y a des jours où il va y avoir des vagues, et ben on peut très bien dire aujourd'hui, il y a pas de honte à ça. Hein. Aujourd'hui, je veux pas dans l'eau.
Oui,
c'est trop gros pour moi. Il faut savoir connaître ses capacités et c'est comme ça qu'on évite les accidents. Parce que les discussions entre potes et t'es pas capable d'aller passer la vague là-bas.
C'est danger ça.
Voilà. Déjà ça, et ensuite, comme Nicolas l'a dit, il y aura aucun souci tant que les gens se baignent entre les deux drapeaux rouges et jaunes. C'est la zone qu'on surveille en priorité. Si vous êtes en dehors des drapeaux rouges et jaunes, c'est clairement pas la priorité des nageurs sauveteurs. Donc certes, on viendra, mais pas.
Oui, il y a une mise en danger qui est complètement accrue. Et puis rappelons que, vous le disiez, l'océan est un organisme vivant, mouvant. Il y a des coefficients, il y a des marées, il y a des bancs de sable qui bougent. Donc il y a des situations qui sont, qui ne sont pas immuables, comme ça peut être le cas dans les lacs ou dans les piscines ou même dans certaines mers. Je pense à quelques endroits en Méditerranée. Vous positionnez les drapeaux en fonction de ça. Vous avez aussi connaissance, du littoral, de son fonctionnement. Et c'est ça qui est important.
C'est ça, oui. La zone de bain n'est pas placée par hasard sur la plage.
Alors comment vous la placez?
Tous les jours, elle change. Chaque matin, avec toute l'équipe, le chef de poste, on regarde la plage. On va même aller tester le bain. On va se mettre à l'eau nous-mêmes pour voir quel est l'endroit le moins dangereux, le plus adéquat pour mettre la zone de bain.
Et alors les risques, on entend beaucoup parler, quand on est du coin, on connaît ce vocable, mais pour certains touristes, notamment du mois d'août, qui viennent, qui ne connaissent pas forcément, on entend beaucoup parler souvent des phénomènes de baïne, qui vient du mot bain, en gascon, etc. J'imagine que c'est un des dangers, mais il y en a d'autres. Comment on voit, des courants un peu dangereux ou des bancs de sable qui pourraient nous piéger en fonction de la marée?
Alors,
on peut faire pour minimiser les risques?
Honnêtement, pour les voir, il faut avoir un œil assez aguerri. Ouais. On aura beau l'expliquer, surtout à l'oral, le mieux c'est de montrer. Alors, dans les Landes, ici, on a deux types de courants. On a les baïnes, comme vous expliquez. Donc, c'est ce que Nico disait aussi tout à l'heure. C'est des zones où il n'y a pas de vagues, parce que l'eau est plus profonde, mais c'est aussi les zones où il y a le plus de courant.
Oui.
Parce que là où les vagues cassent, amènent de l'eau au bord, il faut que toute cette eau qui arrive au bord finisse par repartir, et elle repart toute par le même endroit, là où il n'y a pas de vagues, et donc c'est ça qu'on appelle une baïne. Et on a aussi des courants d'arrachement, ça c'est des petits courants, ça forme des taches blanches dans l'eau, où l'eau est assez agitée, mais ça va pas souvent très loin du bord. Donc dans tous les cas, si les gens sont pris dans des courants, surtout ne pas nager à contre-courant.
C'est donc la si pire le courant vous amène donc, au large, vous acceptez d'être pris au large et vous allez trouver un autre moment
où vous allez pouvoir rentrer facilement. Ne pas nager face au bord si jamais on est emporté vers le large. On nage sur les côtés et la première chose à faire, évidemment, c'est attirer l'attention. Donc on lève les bras, on appelle, il n'y a pas de honte à ça. S'il faut, nous on est là, on est payé pour ça sur les plages, c'est notre métier, on vient vous chercher, il n'y a pas de souci. Mais le mieux, c'est quand même de se baigner dans la zone de bain pour que ça n'arrive pas.
Oui, absolument, mais c'est intéressant de le dire effectivement à la radio, ne pas nager à contre-courant, accepter parfois d'être emporté par la mer, quitte à ce qu'on s'éloigne et que ça puisse être un peu angoissant et qu'on panique. Il y a souvent du monde, il y a souvent des gens qui sont là pour aider, et donc c'est important effectivement de le dire, quasiment aucun accident entre les drapeaux, à part, vous le disiez Marina, les impondérables parfois de la chaleur et...
des malaises.
Voilà. Mais bon, vous êtes là pour aussi faire les gestes de premier secours. C'est une partie de votre formation et vos savoir-faire aussi.
On a les mêmes diplômes que les pompiers. Donc, tout ce qui est premier secours en équipe, brancardage, ce qui est trauma, malaise, niveau cardiaque, neurologique ou circulatoire.
Et les piqûres de méduses aussi?
Alors ça...
On s'en occupe aussi. Non, oui, on est nageurs-sauveteurs, mais aussi et surtout secouristes.
Eh oui.
Donc, on est là pour traiter une victime du début jusqu'à son départ avec les pompiers.
Et donc l'importance aussi, c'est le message à passer alors aux collectivités, je ne sais pas si c'est un vœu pieux ou quoi, mais l'importance de savoir qu'en investissant l'argent public dans les piscines, ce n'est pas que pour faire de la compétition, c'est aussi pour apprendre aux enfants à nager, et ça fait plus de bons nageurs adultes, parce que ça concerne majoritairement les adultes, figurez-vous, la noyade. Et donc, Élise, vous vouliez rajouter quelque chose?
Non, c'était pas par rapport à ça. Mais
On a fait un petit peu le tour du coup des gestes à apprivoiser et des dangers à essayer d'anticiper, même si évidemment on peut pas tout anticiper. On va se quitter pour la dernière pause et on aura quelques minutes pour conclure et parler un petit peu de l'agenda de l'association, des événements que vous avez en cours de route là pour la rentrée, en plus des championnats de France et de la préparation. On se laisse quelques instants en musique et on se retrouve juste après. On s'en vient dans deux petites minutes.
L'invité du 12-13, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, sur Souvenir FM.
Et c'est la dernière partie de l'invité du 12-13 aujourd'hui, en compagnie du club de sauvetage côtier de Seignos, qui a élu domicile aux Estagnaux, sur la plage des Estagnaux. Alors, s'il fallait résumer la vocation du club en une phrase, c'est qu'il est là, finalement, pour inculquer la culture du littoral. Et donc ça commence notamment par des initiations dès l'âge de 5 ans, Marina.
Oui, c'est ça. L'été, on prend les jeunes très tôt, de manière à pouvoir, par des jeux, leur inculquer la connaissance de l'océan. Voilà, ça se fait donc par des jeux. C'est tout à fait accessible à tous. On a des initiations tout l'été. Donc, si vous avez des petits-enfants en charge l'été, ça peut être une activité intéressante pour les jeunes qui débordent d'énergie.
Et si on est une entreprise, on peut aussi faire appel à vos services parce que vous proposez du team building, n'est-ce pas ?
Oui, c'est ça. Donc hier, on avait donc un premier groupe qui nous a été amené par le tourisme landais.
Oui.
On a gardé le groupe 2h30 sur la plage où ils ont découvert tout un tas d'activités pour faire de la cohésion. C'est fun et utile à la fois.
Et alors Nicolas leur a montré comment on faisait pour courir sur la plage ou pour monter sur une planche, non ? T'étais pas là ?
Non.
Y a aussi en gestation où vous êtes en train de travailler avec le lycée de Tyros pour faire un projet avec les profs de PS, non ? Et l'UNSS aussi ?
Alors, notre objectif, c'est vraiment d'ouvrir le sauvetage côtier à toutes les personnes, même celles qui ne sont pas forcément super sportives et qui n'ont pas envie de faire du sport trois fois par jour, tous les jours. On travaille avec eux pour développer donc de l'UNSS avec le club.
C'est une très belle initiative.
Et permettre aux jeunes donc de passer des diplômes de secourisme pour pouvoir faire des DPS, passer un BNSSA, pourquoi pas, travailler en piscine, dans des campings, voilà.
Oui, c'est des forces vives dont on a toujours besoin, puisqu'il y aura de plus en plus de monde sur les plages de toute façon, d'année en année.
Voilà, et ce qui ne gâche rien, c'est valorisable sur Parcoursup, donc c'est toujours intéressant.
Oui, sur un CV, ça fait toujours bien, hein, absolument, vous avez raison. Et alors, il y a aussi un côté un petit peu plus festif, associatif. Alors, le club, c'est aussi comme tous les clubs sportifs et autres, un lieu amical où on est avec des amis et où on fait un peu la fête puisqu'on est dans le sud-ouest. Alors, il y a je crois qu'il y a une peña, ou racontez-nous un petit peu c'est quoi l'agenda.
Là, jeudi prochain, lors des fêtes de Bayonne, vous pouvez retrouver le club de Seignos à la peña des Yayayos, rue des Basques,
voilà.
Jeudi après-midi.
Ah, le jeudi, voilà.
N'hésitez pas à venir.
C'est le meilleur jour, le jeudi en plus.
Voilà, tous les bénéfices seront reversés à l'association, nous aideront à nous développer, à acheter de nouveaux matériels, à pouvoir continuer... continuer à se développer.
Et vous pourrez notamment, j'imagine, acheter les beaux t-shirts que vous arborez aujourd'hui. Vous les verrez, chers auditeurs, sur la photo, sur le site internet. Cet après-midi, on va publier le podcast. Un beau logo que vous avez avec des beaux t-shirts noirs. Donc la Peña,
cette Peña, elle va servir à... Enfin, c'est le point de départ du développement de la section Surbot. Donc c'est une activité qui se pratique sur un bateau à rames, donc 4 rameurs, 1 barreur. Et le but, c'est de faire le tour d'une bouée et surtout de revenir en surfant quand il y a des vagues.
Oui.
Donc pouvoir surfer à plusieurs, c'est vraiment une sensation très particulière.
Le surfboat, du coup, la nouvelle discipline que vous allez essayer de lancer.
Toujours originaire d'Australie, à l'origine pour sauver des vies.
Ouais.
Et là, c'est plus pratiqué comme un sport en compétition. Mmh. Mais ce qui change là-dedans, c'est qu'on n'est pas tout seul sur son embarcation.
C'est collectif.
Voilà, c'est un vrai groupe qui doit s'entraîner ensemble. Donc, bon esprit d'équipe.
Eh bien, vous nous avez donné envie de nous y mettre au sauvetage côtier sportif. Je vous remercie. C'est la fin déjà de notre émission. On aurait pu y passer un petit peu plus de temps, hein, comme d'habitude. Mais bon, il faut sélectionner. C'est comme ça. Rappelons, déjà, je vous souhaite bien du courage, les jeunes, pour vos compétitions respectives et pour la suite de vos parcours étudiants aussi. Hein. Essayez d'allier les deux, c'est important. Tenez bon, mais vous m'avez l'air bien câblé. Marina, merci à vous aussi pour avoir redynamisé le club avec votre équipe. Et rappelons que il faut être vigilant face à la nature et face à l'océan, et qu'il faut surtout se baigner entre les drapeaux et pas se prendre pour Michael Phelps.
Voilà, exactement. Baignade entre les drapeaux rouges et jaunes. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à aller la poser aux nageurs sauveteurs. Ils se feront un plaisir de vous répondre.
Eh bien, c'est noté. On conclura là-dessus. Merci encore à tous les trois. Et je crois qu'à 14h, il va falloir retourner sur la plage. Donc, on ne va pas traîner pour conclure. Je vous dis adichat à tous. Et on se retrouve une prochaine fois sur Souvenir FM.
Merci.
Merci à vous.
Merci.